Vous écoutez
RMC.
RMC.
Aïe, 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 oui, oui. J'ai parlé français.
Je voulais souhaiter la bienvenue à Bruno. Ben Vindo.
Ça va bien, toi. Bonjour, la maison. Parti.
Jusqu'à minuit.
C'est l'After Foot. Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, ils sont là, Eric Dimeco, Daniel Riolo, Jérôme Rotten, pour parler foot amateur. Pourquoi ? Parce que, bah, ça y est, Noël Le Graët l'a annoncé aujourd'hui, fin des championnats amateurs. Alors attention, parce qu'il y a des subtilités, hein, donc écoutez bien ce que... Fin de toutes les compètes de ligue régionale, des compètes de district départemental. National 3, stop. National 2, stop. D2 féminine, stop. Futsal, championnat de jeunes, féminin masculin, stop. Mais, attention, le national, c'est dans la 3ème division, pas stop. Et oui, parce que là, on se dit, il y a quand même des enjeux de barrage et tout pour la Ligue 2. On attend de voir quand même sur ce championnat-là s'il peut se terminer comme la Ligue 1 ou la Ligue 2 en juin. D'autant que, bon, les gars qui jouent en national, c'est quasiment tous des pros. Hein, ouais. Voilà, 90%. C'est des gars qui ont que le foot. Donc, ils peuvent s'adapter à ça. Et pareil pour la D1 féminine. Donc là, pour l'instant, pas stop. On attend de pouvoir peut-être éventuellement terminer. D'ailleurs, les filles, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais les filles, elles ne veulent pas reprendre en majorité. Hein. Alors, les garçons, ce n'est pas une majorité, mais les filles, en grande majorité, ne veulent pas reprendre le championnat. Voilà, à suivre. Par ailleurs, la Fédé qui organise la Coupe de France, je le rappelle, a expliqué aujourd'hui que la finale de la Coupe de France serait bien reprogrammée en fonction des conditions sanitaires, que les demi-finales de Coupe de France féminine également devraient se jouer. Donc voilà, on veut quand même emmener les Coupes de France.
Donc le foot féminin, demi-finale, finale, ça se joue.
Ça devrait se jouer, ouais.
Ok, c'est le championnat, non, mais la Coupe, oui.
Si, le championnat. Les filles, première division, elles jouent.
Ouais,
d'accord, j'avais pas compris.
Mais ce que je dis, c'est que les joueuses, dans la grande majorité, ne veulent pas.
D'accord. Ok.
Bon. Après, c'est peut-être. On n'a pas le fond de cloche des dirigeants là du foot féminin en l'occurrence.
Les joueuses ne veulent pas quoi ?
Reprendre.
Finir le championnat.
En majorité, ouais. Bah ouais.
Ah. Ah bon. Joue déjà à huis clos pourtant. Hein, je veux dire, c'est pas.
Oui, c'est vrai que. C'est... Alors sachez aussi.
Après, c'est vrai qu'il y a un suspense incroyable.
Ah, c'est pas joué. Hein.
D1 féminine. Ah ben non, c'est Lyon et Paris.
Ouais, c'est entre Lyon et Paris. La Coupe Gambardella, annulée. Donc on était au quart de finale, annulée. Il n'y aura pas de vainqueur de la Coupe Gambardella cette année. Voilà. Et puis, du coup, on en arrive au content et au pas content. Parce qu'en gros, il y a les contents, comme Bastia, on va en parler dans quelques secondes, puis il y a les pas contents. Rouen, par exemple, qui est un club historique aussi du foot français, qui aurait pu remonter cette année de division, se retrouve...
se retrouve à pas monter.
Se retrouve à pas monter pour quelques points. Donc le président de Rouen a dit bon, on est beaux joueurs, mais bon quand même, en gros, on fait chier quoi. Et puis Sedan, alors on va parler de Sedan parce que c'est lié à Bastia. Mais pour parler de Bastia, on a avec nous un joueur que tu connais, Jérôme. Il était jeune quand tu étais encore à Bastia. Il est milieu défensif du Sporting. Il s'appelle Christophe Vincent. Bonsoir Christophe.
Bonsoir messieurs.
Salut.
Bonsoir Christophe.
Vous avez fêté ça,
David. Rien à voir avec David. Rien à voir avec David, Vincent.
Il a rien à voir.
Il a la référence, ça va.
On me la retrouve souvent, celle-là.
Oh, mais franchement, je pensais pas, parce que c'est une référence.
Il est jeune,
plus personne là, celle-là. Quoi.
Ouais.
Et donc, t'as connu Jérôme là, sur le terrain ?
Ouais, j'ai connu. On était à Bastia ensemble. Voilà, moi, je débutais, et lui, je dirais qu'il était sur la fin.
On va dire ça comme ça. Ouais.
On a déjà été sur la fin de quelque chose.
Ah, j'étais sur la fin, bah, j'avais 35 ans. Bien sûr que je finissais.
Voilà, hein. Meilleur joueur de Ligue 2, mais sur la fin.
Ah oui, il fallait leur apprendre le. Voilà, leur montrer la voie. Bon, après, il y en a, ils ont réussi, il y en a d'autres, ils n'ont pas réussi. Mais non, mais c'est des très bons souvenirs. Mais en tout cas, même si on va parler d'autres choses, je voulais déjà te féliciter de cette année parce que c'est pas facile et bravo pour la montée. Et je pense que à Bastia, plus qu'ailleurs encore, je pense que les gens sont fiers et attendent que ça, une remontée dans le niveau professionnel.
Ouais, tout d'abord, merci. Ouais, c'est clair que. T'as connu ça, les supporters, ils attendent ça avec impatience. Et là, on est dans la reconstruction, pardon. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, c'est fait.
Bon, vous avez fêté ça là ? Moi, j'ai vu quelques vidéos.
Ouais, on l'a fait, on l'a fêté un peu.
Vous avez fait un apéro FaceTime ?
Voilà. Non, pas encore. Après, on a un groupe WhatsApp, on a discuté, mais on n'a pas encore organisé ça.
Bon, voilà. Alors, c'est quand même une saison qui est assez dingue, hein, ce que vous avez vécu, parce que vous étiez dans le groupe de Sedan. Alors, en fait, c'est assez étonnant, c'est la National 2, parce que les clubs peuvent remettre des souhaits. Et en fait, les dirigeants de Bastia, ils voulaient pas être dans la zone méditerranée, là, avec tous les clubs. Il y a pas mal de clubs dans les Bouches-du-Rhône, dans les Alpes-Maritimes et tout. Ils voulaient surtout pas être dans cette poule.
Ouais, bah, valait mieux pas, ouais.
Non mais en fait, faudra m'expliquer pourquoi d'ailleurs, parce que
Parce que quand t'es, et je parle à,
et quand t'es Bastia, c'est mieux d'aller jouer à Christophe. Sedan que d'aller jouer contre l'Atlético Marseille.
Mais non, c'est pas ça. C'est une question de. On parle de sécurité, d'ambiance dans les stades, mais moi, écoute,
quoi, c'est que les traiteurs.
Mais j'aimerais bien que ce soit clair au niveau explication là.
Bah oui.
Les gens t'attendent. Oui. C'est des traquenards. C'est des insultes de partout. Ça fuse. Alors encore plus. Imagine au niveau amateur, au niveau professionnel, t'es quand même protégé. Au niveau amateur, c'est une catastrophe. Si c'est pour avoir, en plus, il y a beaucoup de supporters de Bastia sur le continent. Donc ils se déplacent dès que le Sporting et même en National 3, même en National 2, ils se déplacent, ils viennent. Et bah forcément, quand t'as moins de sécurité, et ben t'as des attroupements, ouais, des bagarres, des trucs, c'est et c'est pas possible.
Dans le sud, c'est pas possible.
Oui, bien sûr. Sur certains matchs, je sais que la police a été appelée. Donc voilà, c'est sûr.
Des matchs dans le sud de la France.
Ouais, des matchs dans le sud de la France. Après, je pense que ça a été.
Bon après, peut-être que les mecs du sud, ils veulent pas venir à Bastia non plus. Hein, tu me diras.
Ouais, oh, t'es bien accueilli à Bastia.
Ouais, je pense qu'on est bien accueilli à Bastia.
Eric, t'as vécu des aventures à Bastia?
Pas qu'à Bastia, à Ajaccio aussi.
À Ajaccio aussi.
À Bastia aussi. Ouais.
Bon, enfin bon, alors, on a bien compris que voilà, il y avait possibilité de problèmes dans les matchs entre équipe corse et équipe sudiste, on va dire. Et donc, les dirigeants ont demandé à jouer dans une poule différente et vous avez atterri dans une poule improbable du nord de la France, en fait. Hein, donc, ça faisait à chaque fois des déplacements assez longs.
Parfois, il est plus facile de faire un Bastia Paris qu'un Bastia Marseille.
Exactement,
hein,
t'as raison.
Il faut aussi dire que parfois ça peut être un argument. Hein. Souvent, d'ailleurs, on met les clubs un peu Paris, région parisienne dans ces parce que en termes de transport, paradoxalement, c'est plus facile. Hein.
Bah ouais.
Alors, comment vous faisiez d'ailleurs quand vous alliez, c'était pas des avions privés, j'imagine, là, quand on est à ce moment-là.
Non, du tout. Souvent, ce qui se passait, on partait le vendredi soir. Le vendredi après-midi, on partait sur Paris après, où on faisait du. Ça nous arrivait de partir en train après, de prendre des lignes pour aller jusqu'à Lille en train, ou prendre des voitures, ou des minibus, ou alors avoir un car. Et on faisait notre petit trajet, et on rentrait le dimanche.
Bon, ça va, le club, vous allez prendre le ferry pour aller à Marseille et prendre le train pour aller à Lille, quand même, ça va.
Ouais. Non, mais ça va, c'est plus facile.
Bon, l'équipe va monter en national. Est-ce qu'en national, parce que là c'est le remontada, quoi, Bastia. C'est marrant parce que souvent les clubs comme ça qui périclitent. Bon, Strasbourg l'a fait aussi un peu en remontant sur plusieurs
assez
saisons.
Vite, c'est vrai.
Et là, Pam Bastia remonte aussi assez vite.
Déjà fait, surtout.
Bah, non, mais c'est étonnant quand même. C'est-à-dire quand même.
Toulouse aussi l'avait fait.
Toulouse, t'as raison, avec la fameuse époque des Pitchouns.
Ouais, mais ils étaient descendus en national, c'est ça. Pas en cinquième division comme le Sporting ou Strasbourg a connu ça.
Ouais. Alors Strasbourg après en national est resté 2 ans avant de remonter. Là vous êtes armé pour le national, Christophe, au niveau sportif.
Sincèrement on a une très belle équipe. Je pense que la première année ce sera une année de reconstruction. Après je sais pas au jour d'aujourd'hui. On peut pas exactement se projeter, mais je pense qu'on a une très belle équipe pour rivaliser, en tout cas pour se maintenir en national.
Ouais, tu veux dire l'objectif sera pas la montée tout de suite.
Ouais, voilà, exactement. En tout cas, on n'a pas les tenants, les aboutissants aujourd'hui pour savoir ce qui va se passer.
Mais tu penses quand même qu'il y a les moyens. Bon, l'ambition elle est réelle. Peut-être que oui, monter en D2, en Ligue 2 en 2 ans, c'est peut-être l'objectif. Mais si tu peux le faire en 1 an, tu penses que les dirigeants sont prêts à investir déjà, avoir une équipe déjà compétitive l'année prochaine et en renforçant l'effectif de cette année?
Écoute, franchement, je peux pas trop m'avancer sur ça parce que voilà, à l'heure actuelle, vu ce qui se passe, je peux pas te dire. Après, c'est sûr, si on a moyen de monter, oui, bien sûr. Bien sûr.
Non, mais Christophe,
bien sûr,
je t'ai montré la voie là-dessus. Quand t'es capitaine de l'équipe, t'appelles le président et tu lui mets la pression et tu lui dis, écoute, moi, je veux une équipe compétitive, sinon je me barre. Voilà, et ben, tu verras que tu vas avoir des bons joueurs.
Tu vas être bien reçu, tu verras.
Et là, Jérôme, il lui dit, bon, bah, casse-toi, alors, c'est ça.
Voilà, et là, tu reviens et tu lui dis, casse-toi.
Bon, Christophe, toi, tu vis que du foot?
Ouais, je vis que du foot, ouais. J'étais à Bruges et après je suis rentré ici et je vis toujours que du foot.
Bon, voilà. Bah, écoute, on te souhaite de revenir dans le monde pro assez vite, bien sûr.
Merci.
Merci Christophe Vincent, donc milieu défensif
bon
de Bastia.
Merci, Jérôme, à bientôt les amis.
Ciao, ciao.
Bonne soirée. À bientôt, bye.
Il y a encore des gars de ton époque là, Sioni, non? Il est encore là?
Ouais, Gilles. Alors, avant, on lui a pas posé la question. Je pense que Gilles, il a dû arrêter cette année ou il avait commencé. Mais bon, déjà, t'imagines en 2011, il était sur la fin. Alors là, on est en 2020, donc je sais pas dans quel état il est. Mais non. Après, Christophe, c'est le dernier avec qui, ouais, il était jeune. Donc là, il continue. Et puis il y a toujours Hervé Sécli, mon pote là, qui est entraîneur des gardiens maintenant, qui est plus entraîneur adjoint, qui est revenu au club après avoir fait une petite pige à Caen et quand. Et a dégringolé en Ligue 1, bah, il s'est retrouvé au chômage, donc il est reparti à Bastia.
Tiens, le Gazélec, dans le même temps, descend. Hein. Le Gazélec, qui était en National, va donc vraisemblablement descendre en National 2, même si ce n'est pas encore officialisé. Alors, parlons maintenant des clubs amateurs, on va dire des plus petits clubs. Bastia, c'est un club historique du foot français, qui a été en finale de Coupe d'Europe, évidemment. Mais on a André avec nous, qui est président d'un club du Nord. Salut André.
Salut, bonsoir l'équipe.
C'est quoi ton club, André?
C'est Roubaix Sport Culture.
Bon, alors quelles sont les conséquences chez toi à Roubaix de l'arrêt du foot amateur aujourd'hui?
Ben nous c'est simple, par exemple l'équipe première qui joue en R3 qui était dernière, 12e, on a fait que 10 matchs, tu vois, et on a, par rapport au 11e, on a qu'un point de retard, et ben on descend, tu vois, avec 10 matchs. On a joué 10 matchs, on a quasiment pas joué depuis le mois de janvier, et en fait la saison elle est morte. On a fait à peine une demi-saison. Même pas. On a fait quoi, trois mois, septembre, octobre, novembre, un peu décembre.
Ouais, donc là, mathématiquement, vous pouviez encore vous maintenir.
Bah, mathématiquement, bien sûr que c'est jouable. C'était jouable. Mais bon, comme la Fédé a décidé tout à l'heure, ou cet après-midi, ou hier, à la limite, une montée, je peux comprendre qu'on fasse monter, mais descendre, il fallait faire comme les autres sports collectifs. Le rugby, le basket, le hand, etc. Tu vois, et là, on n'a pas compris, vraiment.
Il y a pas mal de présidents de clubs qui disent quand même on est mis devant le fait accompli par la Fédé, il n'y a pas de discussion, enfin, il y a pas
Exactement.
Mal de gens en colère.
Alors, en fait, c'est la Fédé qui décide. La Ligue des Hauts-de-France, elle a suivi. Et par contre, je sais que les sept districts des Hauts-de-France, ils nous ont envoyé un message juste avant que la Fédé prenne la décision, en disant qu'ils voulaient qu'une montée, pas de descente. Et ils n'ont pas été entendus. Et en fait, nous, comme on est sur la base... Même la Ligue, que ce soit la Ligue ou la Fédé, on n'est pas écouté, on n'est pas entendu. On est vraiment. On est bon pour sortir des carrés de chèques.
Ouais. C'est-à-dire pour payer des licences, des amendes.
Exactement. Là, c'est catastrophique pour nous parce que là, je vous dis, on n'a pas joué depuis janvier.
C'est-à-dire que là, financièrement, quelles sont les conséquences pour ton club?
Ça implique quoi pour économiquement pour le club du coup?
Eh ben économiquement, tu fais pas de tournoi. On avait un gros tournoi international au mois de juin qui est annulé. Les stages à Pâques, on pouvait gagner un peu d'argent, etc. C'est les pertes des revenus. Les sponsors qui vont nous lâcher parce que malheureusement, toi nous c'est beaucoup des restos, des pubs.
Ils sont dans la merde donc.
Ils sont dans la merde et tu peux pas aller les voir à la rentrée parce qu'ils vont te regarder avec des gros yeux, ce qui est logique.
Bah ouais.
Et t'es reparti pour payer des droits d'engagement, etc. Je vais envoyer un mail ou un courrier en demandant des remboursements. Je veux qu'on me rembourse des licences des gamins, au moins 50%.
Et est-ce que un club comme le vôtre est en danger de vie, en danger de mort plutôt?
Bien sûr. Je pense que pour
C'est-à-dire,
nous.
C'est-à-dire dans la réflexion, ça peut aller jusqu'au dépôt de bilan ou
Pourquoi pas? Je dirais, on va essayer de s'en sortir, mais je veux dire, on a 420 licenciés. Aujourd'hui, comme il n'y a plus de club, il n'y a plus de gamins. On essaie de rester en contact, mais c'est compliqué. On va reprendre quand, on ne sait pas. Si on reprend en septembre, je pense que les gamins, ils seront partis ailleurs. Il faudra qu'on court après eux. Ça va être compliqué. Je pense que tous les clubs sont un peu dans la merde et on ne se sent pas soutenu du tout par la. C'est ça qui me fout en rage. c'est qu'on est
pas. Toi, par exemple, tu es président d'un club de, à Roubaix avec 400 personnes, c'est quand même pas rien. Il n'y a jamais personne qui t'a appelé pour avoir ton avis pour
Rien du tout. Si, le district. Je suis en contact avec le district. Ouais, parce que le district, tu vois, ils sont, malgré tout, ils sont à la base. Donc, ils sont plus près de chez nous. Mais la Ligue, moi, on m'a dit tout à l'heure que la Ligue, elle avait appelé tous ceux qui s'étaient montés. Tous les premiers. Président de Ligue.
Ah ouais, toi, t'es dernier, donc forcément, ils vont pas t'appeler.
Ouais, c'est difficile d'appeler en disant, bon, mais toi, tu descends, on s'arrête maintenant. Mais ouais, est-ce que à votre niveau, il n'y avait pas possibilité d'attendre et de se caler sur le. Alors, quoique, il n'y avait que 10 matchs qui avaient été faits, ça faisait qu'il restait quand même beaucoup de journées par rapport aux pros. Mais est-ce que jouer l'été, par exemple, ça posait un problème pour vous, à ce niveau-là, ou de.
Ouais, on aurait pu jouer jusqu'au 30 juin, je pense.
Ah ouais, mais 30 juin, c'est pas possible.
Ouais,
non, mais après, tu te heurtes à un problème dans pas mal de villes. C'est que pendant l'été, les installations sportives sont fermées.
Et puis la Ligue, les licences sont plus valables.
Voilà.
En fait, on a joué très peu de matchs. Toi, t'as des ligues, j'ai regardé, t'as des ligues, ils ont joué, il en reste 4 matchs, tu vois. À la limite, que tu fais des classements à 4 matchs, ça, c'est logique, ça tient debout. Mais là, nous, c'est exceptionnel. Nous, on avait demandé une dérogation exceptionnelle. Un peu comme dans l'Est, peut-être.
Et dis-moi, est-ce que t'as des parents qui t'ont appelé en te disant « Ouais, bon, il n'y a eu qu'une demi-saison, on va être remboursé d'une moitié des licences ?»
Bah écoute, arrête, tu vas me faire peur, là. J'en ai entendu parler, je n'ai pas répondu, mais je me dis « Alors là, on est mort. » C'est la double peine. Mais bon, je ne serais pas étonné. Bon. Je ne serais pas surpris.
Bah oui, t'as des gens par exemple qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui peuvent se dire j'ai payé je sais pas 150 balles pour mon fils, il a joué 5 matchs.
Mais Gilbert, c'est sûr que ça va se passer comme ça de toute façon, c'est sûr qu'ils vont tenter le coup déjà mais c'est triste et moi je comprends tous ces le foot amateur, on en parlait vendredi dans Rotten Régal dans mon émission avec Jean-Michel Larquet, et Jean-Michel qui est aussi très proche du
président
foot amateur.
De district.
Ouais, il disait la crise, elle va toucher, bien sûr qu'elle touche le milieu professionnel et les clubs vont être handicapés, mais le pire c'est dans le foot amateur et là c'est exactement ce que tu es en train de nous dire, nous décrire, c'est ça, c'est la perte de sponsors, c'est une relégation. Alors la relégation, vous pouvez vous en remettre parce que c'est pas
bien
à ce niveau-là que ça va jouer, mais c'est sur tout le reste et c'est vrai que c'est problématique.
Et donc, en plus, la Fédé, j'ai entendu des messages en disant « faute de dotation, on va aider les clubs amateurs ». Mais ça, c'est du pipeau, ça. C'est du pipeau, parce que nous, ça revient jamais. Chez nous, ça revient pas.
Et là, tu veux dire que le ruissellement dans le foot, toi, t'as jamais reçu une goutte, quoi.
Jamais. La Coupe du Monde, allez, les Bleus, ils ont gagné la Coupe du Monde, on s'est dit « tiens, on va recevoir quelque chose ». Rien, on n'a jamais de retombée. Si, on paye.
Bon.
On n'arrête pas de payer.
André, en même temps, qu'est-ce que t'as foutu pour être dernier là ? C'est quoi cette équipe ?
Bah écoute, beaucoup de jeunes et puis des blessés. Et puis bon, voilà. Et puis, tu vois, en plus, nous, c'est un championnat haché, on joue pas beaucoup. Dès qu'il y a des intempéries, c'est stoppé. C'est galère. Hein, dans les,
c'est quel niveau ?
R3, puis voilà, la Ligue.
Régional 3.
Désolé, ils font pas tout ce qu'il faut pour le faire jouer, tu vois. C'est un truc de fou, tu vois. Il y a des moments où tu dois jouer, tu joues pas, tu vois. C'est l'éternel problème de gérer par des gens qui sont là-haut et qui ont oublié le terrain.
Merci en tout cas pour ce témoignage, André.
Merci, bonne continuation, merci.
Salut André, à bientôt. André qui est président du club de Roubaix Sport qui était avec toi. Appelez-nous, 32-16, n'hésitez pas. Dans quelques instants, on sera avec Imed qui lui est l'entraîneur de Bobigny, gros club, Bobigny en région parisienne. Il va aussi nous expliquer les conséquences pour lui de l'arrêt. Et bien sûr, c'est vous qui nous appelez. Le 32-16 est ouvert, le foot amateur ce soir, exceptionnellement dans l'after. On n'en parle pas souvent du foot amateur dans l'after. Nous, on parle des pros, des grands matchs, de la Ligue des Champions, tout ça. Mais là, aujourd'hui, forcément, ça, tout s'arrête. Donc, bien obligé d'en parler. Et puis je le rappelle, c'est le foot amateur en France, c'est 15 000 clubs, 2 200 000 licenciés, plus grosse fêlée évidemment. Donc c'est 2 200 000 auditeurs de l'after, il faut le savoir. Donc
il y a tous du foot amateur, les pros. Faut pas l'oublier.
Et quoi ton premier club amateur? Ah ben non, t'as fait un club amateur, toi Jérôme, quand t'as démarré?
À la Espedon, moi.
T'étais pas à Châteaudun.
J'ai grandi à la Espedon. J'ai fait grandir le club et puis après, d'un moment, je pouvais. Après, je suis parti à Versailles et voilà. Donc, c'est des clubs amateurs.
Versailles, c'est un grand club, Versailles.
Ben oui, mais c'est un club amateur. Ouais. Alors à l'époque, c'est vrai que ça jouait en, alors c'était des divisions, ça jouait en troisième et après en quatrième division. Mais voilà, c'est des clubs amateurs.
Et toi, Eric, ton premier club?
Ben, mon village, Robion, donc l'US Robion. Et après, je suis parti à la MJC d'Avignon, le club de Lolo Paganelli. Et moi, je suis arrivé à la MJC d'Avignon quand lui partait à Saint-Étienne. Voilà, j'ai fait deux ans de cadets nationaux et après je suis allé au centre.
Et toi, Daniel?
Bah, ils sont Rangis.
C'est quoi, oui. Rissorangis, c'est quoi? C'est le football club Rissorangis, l'Union Sportive,
l'US.
Lucero.
C'est Lucero.
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 Et ils se souviennent de toi un peu ou pas du tout?
Comment ils ont fait une statue?
Il a fait grandir le club lui aussi. Hein.
Il y a, non, mais je crois qu'il y a une plaque à l'entrée, un truc comme ça, je crois.
Ah ouais, d'accord.
Et ben moi, messieurs, c'était l'AS Strasbourg qui jouait avec les maillots de l'Ajax. C'était magnifique.
L'AS Strasbourg, d'accord.
L'AS Strasbourg.
T'as pas fait de foot. Alors, t'étais gamin, Gilbert.
Si.
Et tu sais comment.
C'est pas possible, mais t'as tout perdu en fait.
Toi, de toute façon, je savais que t'avais forcément m'allumé.
Mais non, mais sans déconner, mais quand on te voit, tu peux pas te cacher, tout le monde te voit maintenant jouer.
Ah, viens courir avec moi. Tu sais, mon problème, c'est jamais le physique.
Ah non, mais courir, mais courir. Ah, mais
courir, tu disais.
Non, moi, mon club, mon petit village, Robion, donc, c'était les couleurs du Milan AC.
Ah ouais?
Rouge et noir, avec les bandes rouge et noir, comme Nice, si tu veux, mais bon. Milan,
et on s'en souvient toujours des couleurs de son premier club.
Ah ouais.
Lustro, ils étaient. Ah ouais. À mon avis, Lustro, ils étaient en jaune et noir. Je sais pas pourquoi.
Non, c'est pas orange.
T'es pas loin, c'est le maillot jaune et le short bleu marine.
Ah, genre Toulon, quoi.
Genre Toulon.
Toulon, il est pas bleu marine, le short.
Oui.
Ah, c'est si, jaune et bleu. Jaune et bleu, Toulon.
Bien sûr.
Ah, c'est ça, alors.
Mais c'est ça, comment Sochaux aussi.
Sochaux, exact. Dans quelques instants, Imed avec toi, entraîneur à Bobigny. On se retrouve tout de suite, 32-16. Hein, si vous êtes dirigeant, coach, joueur dans le foot amateur et que tout s'arrête pour vous, vous êtes dégoûté ou alors vous êtes content parce que du coup vous montez peut-être. Bah, appelez-nous, 32-16.
RMC, l'Afterfoot, Gilbert Bribois.
Avec Jérôme Rotten, Eric Dimeco, Daniel Riolo, pas mal de messages sur Direct Studio. Hugo qui nous dit le stade Émile Gagneux de Rissorangis. Effectivement, il y a une statue de Daniel, comme celle de Thierry Henry devant l'Emirates.
C'est ça. Tu vois, je l'avais dit.
Nous dit Hugo. Alors, je remercie Jalles qui allait chercher les résultats de longue épée au JO de Séoul. Alors, il est arrivé au-delà de la 60e place à la barre fixe.
Et les barres parallèles aussi, non?
Ça, j'ai
non,
pas.
C'est barre fixe, c'est la barre fixe.
En général, les gymnastes, ils font tous les agrès.
Oui, mais il y en a toujours un où t'es un peu plus fort.
Ils sont des spécialités, mais normalement,
il passe à. Et au-delà de la 60e place, hein, il n'a pas, on va dire qu'il. Il a participé.
Il n'a pas passé le cut.
Il n'a pas, voilà. Et puis, il y a Marc qui lui dit il y a des clubs, on attend toujours le remontada. La S Cannes, par exemple. Je crois qu'il est canois, il n'est pas très content, Marc. C'est vrai que.
Voilà. Ah mais à Cannes, c'est trop beau Cannes. Imagine les joueurs amateurs qui vont là-bas. Au bout d'un moment, ils se perdent.
Non, mais il y a eu des projets qui, puisque je crois que Patrick Vieira avait aidé un petit peu.
C'était Mikou le président.
Il y avait Johan aussi, ouais.
Ouais, c'est vrai. Ouais,
il s'est pas fait que des amis hein, apparemment. Hein, sur ce que j'ai entendu, il est parti avec pas mal de casseroles quand même.
Alors, Imed est là, il est entraîneur à Bobigny. Alors, c'est de très bon niveau, hein, parce que c'est de la Nationale 2, c'est le groupe de Bastia. Salut Imed.
Bonjour à tous.
Salut.
Donc, tu es l'entraîneur principal de Bobigny?
Oui, c'est ça.
D'accord. Donc, tu étais dans le groupe de Bastia. Il mérite de monter?
Oui. Oui, franchement, sur la saison, bah déjà, bonsoir à tous. Bonsoir à Daniel, à Jérôme,
salut,
à
Imed.
Eric.
Salut.
Bonsoir.
On était dans le groupe. Bah, comme tu as pu le voir, on est troisième dans ce groupe très relevé avec Épinal, Belfort, qu'on fait des bons parcours.
Mathématiquement, vous aviez encore une chance, vous, de monter?
Oui, parce qu'on devait jouer Sedan et on devait jouer Bastia à l'extérieur.
Ouais.
Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est invaincu à l'extérieur cette saison. On est plus à l'aise en déplacement qu'à domicile.
Ah ouais, donc tu avais un coup à jouer, quoi.
Ouais, on avait un coup à jouer. Bon, après, on va pas se mentir, c'était pas l'objectif du club. Moi, c'était ma première saison à ce niveau-là, c'est-à-dire que je sors du monde jeune, c'est-à-dire que j'ai fait 17 ans, 19 ans nationaux. Donc, c'était ma première expérience avec un groupe très très jeune. Bah, on a une moyenne d'âge de 23 ans. Donc, notre objectif, c'était de se maintenir, parce que l'année dernière, on a failli descendre à la dernière journée. Donc, du coup, le club a changé de staff, et puis du coup, je suis arrivé avec Abbès Ousmane et on est reparti sur une nouvelle aventure avec un groupe très très jeune.
Bon, du coup, vous êtes dégoûté là de l'arrêt ou vous dites bon, de toute façon, il n'y a pas d'autre solution?
Ben non, il n'y avait pas d'autre solution. Je pense que la sécurité des joueurs passe avant tout. Les raisons sanitaires ont fait que on était obligé de stopper ce championnat, donc c'était un peu compliqué. Il n'y avait pas assez de dates pour aller jusqu'au bout. Donc, il fallait se faire une raison. Et puis, moi, je ne voyais pas d'un très bon œil de faire une saison blanche, parce qu'on avait quand même entamé plus de 70% du championnat. Mmh. Et puis, sincèrement, pour des clubs comme Bastia ou Sedan, bah, c'était logique qu'un des deux soit récompensé par une montée.
Alors, quelles sont les conséquences financières pour un club ? Gobini, c'est un gros club. Hein, juste, t'as les chiffres le nombre de licenciés ?
Alors, oui, enfin, on n'est pas dans les plus gros clubs de la région parisienne, mais on approche à peu près des 800-900 licenciés. Mais on est quand même loin de ce qui se fait à côté de chez nous, comme des clubs comme Drancy, d'ailleurs, qui est dans notre groupe. Mmh. Mais par exemple, en termes de budget, bah, on est le plus petit budget des quatre groupes de National 2.
D'accord. Et donc là, il va y avoir des conséquences financières claires là sur l'arrêt avec l'arrêt.
On a un des sponsors, un de nos gros sponsors qui va certainement avoir des difficultés à assumer ses engagements. Donc notre avantage, on va dire entre guillemets, c'est qu'on a beaucoup de jeunes joueurs qui touchent pas grand chose et qui vivent pas du foot. D'ailleurs, tout mon effectif ne vit pas du foot.
Il y a des primes chez toi?
Oui, c'est de l'ordre de 100-120 euros à domicile et 180 à l'extérieur.
La victoire.
Voilà.
Ah, tu m'étonnes que tu aies un vaincu à l'extérieur.
Ouais, c'est ça. En fait, non, j'ai un jeune groupe, la majorité des garçons. Cette année, j'ai lancé des garçons qui sont nés en 2002, 2001, 2000. Et c'est devenu des titulaires, donc on a joué avec beaucoup de jeunes. Et on a un différentiel avec Bastia ou Sedan d'à peu près de 1 700 000, 1 800 000.
Ah oui, d'ailleurs, j'ai vu que le président de Sedan, t'as suivi ça, Imed, je sais pas, lui, il a fait des calculs, il a fait ses propres calculs à lui, il a dit, ouais, mais moi, selon mes calculs, c'est nous les premiers.
Oui, enfin, après, je peux comprendre un peu sa frustration, parce qu'il a passé la majorité du temps à être premier.
Ouais.
Donc, mais sincèrement, moi, pour avoir joué les deux, et j'en avais parlé avec Mathieu Chabert quand ils ont joué chez nous, pour moi, intrinsèquement, Bastia était un niveau, un cran supérieur. Mais ça n'enlève rien à la qualité et au parcours de Sedan. Mais pour moi, je voyais quand même Bastia monter, malgré à la période où ils avaient 11 points de différence avec Sedan. J'avais dit au président de Bastia et à son coach que je les voyais aller au bout cette saison.
Alors donc je reviens sur le club là et les conséquences de l'arrêt. J'imagine qu'à Bobigny vous avez aussi une école de foot. Il y a pas mal de et c'est pas des gamins forcément qui sont les plus riches de la région.
Non.
Est-ce que tu sais déjà comment ça va se passer par ailleurs, parce que on le disait tout à l'heure avec notre ami de Roubaix là, lui il sait pas où il se dit, le club peut peut-être disparaître.
Alors nous, ça sera pas le cas, parce que justement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un club, il vit aussi grâce aux adhésions, donc grâce aux parents, ce qu'il faut pas oublier, parce que nos écoles de foot, elles marchent aussi comme ça. Après, nous, on a une école de foot qui marche très bien. Après, on aura certainement des conséquences par rapport à nos sponsors, mais on n'aura pas une disparition du club. Alors, on aura peut-être un peu de mal à exister l'année prochaine sur de la N2, mais on va mettre les moyens, on va dire, on va mettre des idées, d'ailleurs qui se rapprochent de celles de Daniel, parce que je l'écoute depuis un moment sur le football. Donc, on essaye de lancer aussi des jeunes et on essaye de pratiquer un bon football pour essayer d'exister dans ce niveau-là.
L'école Riolo, donc, fait les émules à Bobigny.
Tiens.
Oui. Écoute, très sincèrement, alors. Je pense que je ne vais pas être original en disant ça. J'aime bien sa réflexion. On n'est pas toujours d'accord, mais j'aime bien ses réflexions. D'ailleurs, à tous, hein, parce que j'écoute l'émission chaque soir. Même si je fais du 7/7, mais j'ai quand même le temps, en sortant de l'entraînement, de vous écouter. Un club comme nous...
C'est pour ça que tu es troisième. Hein.
Ouais, je ne sais pas, Jérôme, mais en tous les cas, on essaye franchement de pratiquer quelque chose. Et d'ailleurs, cette saison, on a fait on est deuxième attaque ou troisième attaque et deuxième défense.
Ah, c'est bien ça. J'aime ce genre de chiffres.
Voilà, avec des garçons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec des garçons de 17, 18, 19 ans. Et parce que nos moyens aussi nous permettent pas d'aller.
C'est vachement bien. C'est ta première saison comme coach. T'as que des gamins là. Et t'as des résultats.
Sort comme ça, dans un groupe très relevé, bravo, hein, vraiment.
Ouais,
bravo.
Non, c'est merci. Et en plus, on est dans un groupe relevé parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, des clubs comme Épinal ou Belfort ont fait des grosses performances en
Coupe, ouais.
en coupe de France. France, ouais.
Ouais, Sedan, Bastia, bah, c'est des gros clubs. On a d'autres clubs comme Saint-Maur ou Saint-Geneviève qui sont des bons clubs aussi. Et donc nous, on était le petit poussé, on va dire, de cette division. Et puis moi, j'étais à Drancy l'année dernière où on était monté de 19 ans R1 à nationaux. Donc voilà, on m'a donné l'opportunité d'entraîner à ce niveau-là. Donc j'ai saisi l'opportunité avec beaucoup d'humilité et beaucoup de travail, donc pour arriver à notre but.
Bon, eh ben, bravo. Bravo. On espère que
donc, du coup, l'année prochaine c'est partir, la montée, alors l'objectif, du coup.
Non, Eric, je pense que l'année prochaine, on va essayer encore de se maintenir, d'exister, et puis essayer de passer cette période, je pense, de l'après Covid-19. Je pense qu'on va mettre 2 ans pour que tous les clubs retrouvent un peu leurs esprits, parce que je pense qu'en cette fin de saison, il y a beaucoup plus important que les classements. On a perdu quand même du monde et je pense que c'est pas terminé. Donc l'idéal, ça serait de se remettre sur un terrain, de rejouer et puis je pense que bon voilà, on va prendre à mon avis 2 ans pour évacuer tout ce qui s'est passé là.
La ville de Bobigny, là, il vous aide ?
Oui, alors on a un jeune président qui a 35 ans qui est responsable du cabinet du maire.
Ah, donc il est bien placé.
Oui. Voilà, il est bien.
Il a les mains pas loin de la caisse.
on aimerait bien qu'il ait la main un peu plus longue, mais bon, très attention, parce que vous savez très bien qu'on passe chaque année devant la DNCG et on a un gros club qui travaille sérieusement pour présenter des comptes propres. Et justement, c'est d'ailleurs on a beaucoup travaillé là-dessus cette saison, sur l'accueil aussi, parce que c'était important. Je pense que Vincent l'a pas dit tout à l'heure, mais quand ils sont venus chez nous, ils ont été très bien encadrés. On les a même raccompagnés, juste parce que le match d'avant, ils avaient eu des petits problèmes à Saint-Maur, qui n'étaient pas dus au club de Saint-Maur, mais à des faits extérieurs. Donc du coup,
ouais, c'est la faute de Kevin Gias.
Voilà, on les a bien accueillis. Et puis franchement, on a beaucoup travaillé sur l'image, parce que comme vous le savez très bien, le 93, bah, généralement, les gens viennent des fois avec des a priori. Donc on a vraiment travaillé pour changer cette image-là. Et puis d'avoir un accueil qui soit digne du football.
Merci Imed.
Merci Imed.
Merci à vous.
Merci Imed. Bon courage.
Salut. Merci.
À bientôt dans l'after et merci pour ta fidélité. Alors on me signale quand même qu'à Robion, le stade s'appelle Eric Dimeco.
Oui.
Stade Eric Dimeco. Oui. Ça c'est quand même la classe. Excuse-moi, mais à Meudon, il n'y a pas le stade Jérôme Bretagne. Eh oui, monsieur.
C'est mon village.
Eh bien, si tu savais.
On verra bientôt à Château.
Si tu savais. Je ne vais pas te raconter, ça serait trop long, l'histoire que j'ai avec l'AS Meudon. Mais un jour, on le fera.
Est-ce qu'il y a un stade Jérôme Bretagne ou pas ?
Et tu verras pourquoi, aujourd'hui, il n'y a pas de stade à mon nom.
Ah, d'accord.
Voilà.
Ça sent l'investissement politique.
On va être obligé de faire une émission sur ça.
Il
faut pas nulle. Hein.
C'est insoutenable.
Ah ouais, là, je sais pas si je vais dormir cette nuit.
Je sais pas comment on tient. Là.
Écoute, je te réinviterai sur l'émission, Eric, et tu verras.
Oui, oui, ça va. Bah oui. Ouais. Non, là, tu m'as introduit, là, ou pas assez. Hein.
Eh ben, c'est pour ça. Attends, le suspense.
Alors, on sent pas mal de coups de fil là, de dirigeants ce soir. Du coup, on a Mourad avec nous. Mourad, bonsoir.
Oui, bonsoir à tout le monde.
T'es dirigeant, entraîneur, qu'est-ce que tu fais ?
En fait, je m'occupe de la préfo dans un club amateur.
D'accord.
Donc,
quel club ?
De U10 à U15. Comment ?
Quel club ?
La Stellalis. Donc, c'est juste à côté de Roubaix, l'intervenant qu'il y a eu tout à l'heure.
D'accord.
Donc, voilà. Et en fait, moi, c'est plutôt l'inverse. Je trouve que c'est une bonne chose, en fait, pour le foot amateur.
Ouais.
Parce que... je trouve qu'en fait l'argent a pris une trop grosse place dans le foot amateur. Et là où se focaliser énormément sur les équipes seniors et on oubliait les jeunes, bah du coup là ça va peut-être faire réfléchir quelques présidents en fait, où du coup on va revoir peut-être la politique et se dire l'essentiel d'un club amateur c'est surtout les jeunes. Et travailler vraiment.
Attends, parce que ça, c'est. Non, mais en fait, il y a des clubs qui, effectivement, se disent nous, l'équipe première, on s'en fout. On est là parce qu'on veut développer l'école de foot, d'abord les gamins.
Exactement, chacun, comme là, l'intervenant juste avant.
Non, mais chacun sa stratégie, en fait, Mourad. Il en faut pour tous les goûts, non ? Enfin,
Oui, non, parce que je trouvais indécent, quand même, les primes de match en amateur, parce qu'il ne faut pas se voiler, il y a quand même des primes de match qui sont.
Voilà,
quand
Bobigny,
même...
il disait 150 euros la victoire à la maison, tu trouves
que
c'est trop, ça ?
Je suis très étonné parce qu'on prend dans la région lilloise, c'est ce qu'on peut toucher en R3, par exemple.
Ah ouais.
Donc, ouais, voilà, tout dépend des budgets des clubs, hein, mais En tout cas, sur la région lilloise, c'est des primes qu'on peut toucher en R3. Je trouve comme ça indécent.
C'est-à-dire, c'est combien?
Ben, 120, 180, il disait 150 de moyenne, quoi. Ouais.
Bah oui, 120, 150, on peut les toucher en R3.
Ah ouais, donc ça veut dire qu'en National 2, National 3, tu peux avoir des primes à quoi, 400, 500 euros?
Ouais, mais ça dépend aussi. Ça dépend aussi. Moi, excuse-moi, mais j'ai entraîné le Plessis aussi.
C'est quoi,
ils avaient des bonnes primes. C'était plus de 200 euros la victoire. Hein. Donc ils avaient des bonnes primes. Mais, c'était DH. Donc c'est R1. R1 et bah c'est des bonnes primes et puis c'était même évolutif, mais après ça les primes en fait c'est tu le comprends pas forcément dans le budget, c'est souvent un sponsor qui s'engage à lui à verser ces primes là voilà, c'est comme ça aussi que ça se passe dans le foot amateur, c'est enfin, pas
le sponsoring,
c'est
sponsoring à ce niveau là les gars, c'est pas du sponsoring, c'est du mécénat en fait.
Mécénat, ouais.
Le type qui en a rien, avoir ton panneau le bar des sports, non,
on est d'accord, on est d'accord, ouais, voilà.
Ouais, voilà. Mais je trouve que oui, parce que un club amateur ne pourra pas, à l'inverse d'un club pro, ne pourra pas, comment dire, déposer un bilan où faut vraiment que ça soit vraiment catastrophique. Mais je veux dire, si t'as une bonne assise en école de foot, y a pas de raison. Après, je veux dire que quand t'es un amateur, enfin, je vois pas l'intérêt d'aller chercher vraiment très haut, un niveau très haut en senior, si derrière en jeune ça suit pas, tu vois.
Bon, c'est ton message.
Je trouve on a comment dire, dans le football amateur on essaie de trop se calquer sur le foot pro et en fait on oublie l'essentiel.
Qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire quoi ça précisément?
Ben, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'aller piquer des joueurs de notre club à côté avec des
exactement. Exactement.
Et voilà, c'est au lieu de faire émerger des petits jeunes de leur club.
Voilà, tout à fait. Mmh. Et du coup, voilà, on a des superbes équipes en senior, c'est la vitrine du club, mais derrière, en jeune, c'est catastrophique. Et c'est un peu la formation à la française, malheureusement. Où aujourd'hui, t'as peut-être un ou deux joueurs qui va sortir, mais après, dans le reste, le contenu, c'est pas ça. C'est pas ça du tout.
Bon, bah, écoute, merci pour ce témoignage aussi. Il y a combien de gamins dans ton école
ça,
de foot?
C'est marrant que même en amateur, on entende ce genre de propos. Moi, ça me fait plaisir, ouais. Moi, d'entendre ça, moi.
On est à peu près 450 licenciés.
D'accord. Bon, écoute, bon courage. Donc, c'était la Lys. Hein. C'est dans quelle ville?
C'est à Lys-les-Lanois.
Lys-les-Lanois.
Collé à Roubaix, on a un quart d'heure de Lys.
Rien à voir avec Monsieur Lanois?
Non, rien à voir.
Qu'on salue. Salut Mourad, à bientôt.
Salut, à bientôt.
Salut Mourad.
Il était du Nord, hein, Monsieur Lanois. Ah oui, peut-être.
Ah ouais, il était du Nord, lui.
Bah ouais. Lanois, c'est un arbitre du Nord.
Ah oui, bien sûr.
Bah
oui.
Ouais, bah je sais pas, moi je sais pas de où il appartient, à quel district il appartient, mais c'est un bon arbitre en tout cas.
Ali qui lui dit très bonne idée de donner l'antenne à des dirigeants de clubs amateurs, ça change un peu. J'ai le libre arbitre qui nous écrit, il dit ouais moi je suis arbitre amateur, pour nous aussi c'est fini, à qui je vais mettre des cartons moi, dit le libre arbitre. Donc voilà, le foot amateur arrêté ce soir. Alors d'ailleurs il y a des calculs à faire parce que on veut mettre en place une sorte de pondération sur les matchs joués, points gagnés, enfin c'est un truc, va y avoir des histoires. Et dans
tu nous as pas
districts.
Dit le média AFC donc n'est pas champion.
Bah si, champion.
Ah bon, un champion, parce que j'ai lu que c'était Canal qui était champion.
Parce que nous, dans notre championnat de foot loisir, on était à égalité de points avec Canal, sauf que le règlement dit que c'est le goal average particulier. Ah, on n'a pas fait le match retour, et à l'aller, on leur a mis 4-0.
Ah ouais, bah ouais. Donc bah bravo.
Et ça a pas gueulé, non? Ça a pas gueulé.
Pas encore. On attend que, je crois que les mecs de Canal ils dorment là. Ils ont pas encore compris que c'était pas eux.
Ouais, ils vont se réveiller là, je pense.
Dans quelques instants le quiz. Attention, messieurs dames, Jérôme Rotten va-t-il se qualifier pour les quarts de finale face au lucky loser Arthur Robert? C'est tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot. Gilbert Bribois.
Daniel Riolo, Jérôme Rotten, Eric Dimeco, ils sont là, messieurs, dames. Attention, nous accueillons tout de suite Julien Cazard. Julien, bonsoir.
Ah. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez?
Très bien, ça va?
Oui, excusez-moi, ça bloquait. Oui, non, mais je suis en pleine forme, vous rigolez, je suis chaud patate, puisque je sais qu'il y a un gros match. Effectivement, j'ai vu qu'il y avait une wild card.
Un lucky loser, comme on dit. Ouais.
Ouais, Loki ouais, enfin, le mec, il a même pas losé, donc il est lucky, je sais pas ce qu'il est, lui. Il n'y a pas de mots pour dire ce qu'il est, lui.
Non, parce qu'il faisait partie des gars qui auraient pu potentiellement participer au grand tournoi, mais c'est un petit jeune, quoi.
C'est pour ça que je dis, ça fait plus white card qu'autre chose. Ouais. C'est vraiment l'invitation jeune, quoi.
On a appris, notre tableau final, on l'a fait un peu à l'ancienneté, quand même, tu vois.
Mais qui je pèse. Comprends. C'est normal. Ah. C'est ma qui pèse. Et donc, on embrasse Nico Villas, hein, du coup, hein, qui se remet gentiment de ses émotions.
Attention, jingle quiz.
Le grand tournoi.
Dans notre monde à nous, 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4, comme ça on devient selfish, on prend du pognon et on partage pas. Ou peut-être que 1 plus 1 égale 11.
Je rappelle qu'une tête de série est tombée la semaine dernière, Eric Dimeco, éliminé par Kevin Diaz.
Ah ouais.
Froidement en plus.
C'est chemin.
Ça, franchement, ça va parce que Eric, il perd pas les quiz. Quoi. Il est très fort en quiz.
Ouais, ouais.
Non, mais sur les quiz avec tableau, là, comme dans le Kikadi, pareil, je sais pas, c'était pas.
Non, mais tu sais, ça arrive de se faire que.
C'est un homme de championnat, Eric.
Non, mais ça arrive de se faire cueillir à froid comme ça. Tu sais, t'es là, t'es en début de tournoi, t'es pas bien.
Exactement.
Daniel Riolo, lui, s'est qualifié haut la main cette semaine pour les quarts de finale. Il affrontera Nicolas Jamin. Ouais. Jonathan Macardy affrontera Damien Perinel, Kevin Diaz m'affrontera moi, et donc on saura qui sera l'adversaire de Laure Le Pailleur dans quelques minutes dans le duel des Roro Rotten ouais. Robert, messieurs dames, attention Jérôme est là, et notre lucky loser, le producteur de l'after du week-end, Arthur Robert, bonsoir.
Bonsoir messieurs.
Salut, sache que Arthur si tu perds on aura un beau quart de finale de blondasse. Donc, les deux plus belles blondes de RMC.
En quart, c'est la logique.
Franchement, si la logique est respectée, j'ai un boulevard, moi, devant moi, là.
Ouais. Alors, tu sais quoi ? Moi, je serais toi, je baisserais d'un niveau, j'essaierais de me concentrer, là. J'essaierais de me concentrer, tu vois ce que je veux dire ou pas ?
Bah, si t'as pas fait le con sur ton quiz,
Non, parce que Arthur Robert, les gens ne le connaissent pas. Ils connaissent Jérôme Thomas, le René et tout, mais Bob, plus discret, tu vois, Bob du week-end. C'est quoi ton club, toi, Bob ?
À Paris, évidemment. À Paris, je suis parisien.
Aïe, là, j'ai fait vraiment un spécial Châtenay Malabry. Mais c'est pas grave. Il y a du Chaville, il y a du Meudon, il y a du Clamart.
Bon, c'est bon alors.
Il y a du Vélizy 2.
Oh bon, là je suis tranquille.
Attention, messieurs dames, on va jusqu'au gong. Il y a
la prof d'histoire géo du lycée Rabelais en France. Alors, attention.
On n'a pas donné les cotes. Vous avez les cotes. T'as les cotes, Daniel?
C'est quoi les cotes?
Bah, les cotes
flottantes.
Les cotes du match, c'est Rotten
1-0-5. Mais le problème, c'est que Bobby, je connais pas en quiz, donc je sais pas. Mais
très mauvais, tu peux mettre une cote de 87. Je suis pas du tout favori. Hein.
Franchement, je mets 1-8 sur Jérôme. Hein.
Ouais. Ah ouais. Je sais pas ce que ça veut dire, mais.
Blé, Jérôme, hein. Ça rapporte pas beaucoup de blé, quoi.
Attention, est-ce que vous êtes prêts?
C'est parti.
Ah, tu mets 10 balles, t'en prends 18.
On va commencer par un petit quoi qui kiff-kiff, c'est bien, ça met en jambes. Alors, quoi qui kiff-kiff, Mboma, Vieira, Kluivert, Batiston.
Patrick.
Eh oui, on n'attend pas Patrick. Il y avait Chirac aussi, mais je n'ai pas rajouté. Patrick Chirac. Mais attention,
il a démarré fort.
C'est vrai que Patrick, dans le coup, c'est pas. Il y avait les chaussures Patrick aussi.
Ouais, j'étais pas dessus.
Je les avais, c'est mes premières, ça.
Ah, les chaussures Patrick, c'était de la merde. Excusez-moi, mais.
On embrasse Patrick, il faisait ses chaussures lui-même.
Ah, mais t'en as pas eu tes chaussures Patrick de foot, toi?
Moi?
Bah si.
Mais t'es malade. Moi, j'avais des Kappa, moi, direct.
Ah là, grande marque, tout de suite.
Grande marque. Et des Diadora au début, j'avais des Diadora.
La Diadora avec la languette, là.
Ouais, absolument. Que tu rabattais, tout ça.
Ah ouais, jusqu'aux orteils.
Quoi qui kiff-kiff, Aimé Jacquet, Gérard Rouillet, Raymond Domenech, Jacques Santini.
Ils ont entraîné l'équipe de France.
Ouais, incroyable. Non.
Oh, c'est tac.
Aimé Jacquet, Raymond Domenech, Gérard Rouillet, Jacques Santini. Ils ont entraîné l'équipe de France, mais ils n'ont pas entraîné que l'équipe de France. Ils ont entraîné un club en commun.
Bordeaux.
Aimé Jacquet.
Ils ont entraîné Lyon et l'équipe de France.
Lyon.
Et oui,
ils ont entraîné l'Olympique Lyonnais. Et oui, Aimé Jacquet, il a même commencé par Lyon, il me semble. Et oui, il est con, bien sûr qu'il est con.
Souvenir que ça, qu'il ait commencé à Lyon, Aimé Jacquet.
Attention.
Un partout.
Quoi qu'il kiff-kiff, Derley, Carlos Alberto, Jean Koskas, McCarthy, Aleinichev.
McCarthy?
Bah, facile,
je joue à Porto.
Alors, je bloque Derley, Carlos Alberto, Jean Koskas, McCarthy, Aleinichev, ils ont une particularité.
Bah, ils ont marqué. Ils ont marqué en.
Alors ça te concerne, ça concerne la finale de 2004.
En finale.
Je rouvre.
Bah, ils étaient titulaires. Ils étaient titulaires.
Derley, Carlos Alberto, Jean Koskas, McCarthy, Aleinichev. Dans l'équipe de Porto, ils ont une particularité. Eh ben, je vous le donne. Ce sont les deux finales.
Ce sont
les non portugais de l'équipe. Tous les autres sont des portugais.
Ah ouais.
Attention, quoi qu'il kiff. Celui-là est idiot parce que je l'avais prévu pour Nico Villas aussi, donc pour Arthur Bob. Marco Ramos, Paoleta, Pedro Mendes, Rafael Guerrero, Elder. Là, c'est un boulevard. Ramos.
Joué avec moi.
Ils ont joué avec Jérôme Bretagne.
Voilà, c'est scandaleux.
Ouais, c'est un peu dégueulasse.
Je suis pas favori et je me fais fusiller sur des questions comme ça.
Hey, attends, c'est bon, on arrive.
C'est une autre.
Excuse-moi, écoute-moi, toi, tu te tais. Alors, attends, qui connaît la crise? Mais c'est vrai, qui connaît la crise?
Reste 8 minutes. 2-1 pour Jérôme.
Je vais vous parler de la crise. La crise monétaire due à l'après-guerre du Golfe en 92. Évidemment, on se rappelle tous de la crise monétaire qui a eu notamment dans des pays comme le Brésil. Alors attention, 91-92, vous connaissez bien cette année. Ah, il y aura du Dimeco forcément. Attention, qui était le meilleur buteur de Serie A en
91-92.
Ouais, c'est un mec, je ne sais pas s'il n'a pas eu le ballon d'or même cette année-là.
Baptiste Souta.
Alors non,
Non.
En 92, Baptiste Souta, je ne sais même pas s'il pouvait l'avoir. Je crois qu'il ne pouvait pas l'avoir.
Oh, c'est facile.
Van Basten.
Jérôme Rotten. En 91-92, qui était... Alors on se rappelle que le meilleur buteur, c'était Jean-Pierre Papa. C'était facile, il y avait Gilles Rousset à l'Olympique Lyonnais qui laissait passer les buts. Mais... Et 7 buts en 2 matchs, ça aide. Mais le deuxième buteur d'un JPP, c'était qui?
En 92.
Ouais, moi je crois. Alors un indice, ça lui a permis de signer dans un club de la capitale juste après. Il devait jouer en attaque avec Georges Weah.
Calderaro.
François Calderaro, magnifique Jérôme Bretagne. Malheureusement, je crois que Vincent Guérin a pris sa place et il y a eu un million en plus.
Ouais.
Calderaro, il était à Metz.
Il a mis une bicyclette à se décoller la hanche.
Je ne sais pas que c'était lui.
Ouais, François Calderaro, magnifique.
4-1, et Bob, réveille-toi là-haut, il reste 6 minutes.
Attention.
Non, 4-1 avec Calderaro.
À l'Olympique de Marseille, il y avait Chris Waddle, mais cette année, il y avait un deuxième Anglais. Comment s'appelait-il?
Oh, facile.
C'est l'autre là. Putain.
Ah ouais, c'est l'autre. C'est l'autre anglais.
Ouais. Bon.
Une fois. Deux fois.
Trevor Stephen.
Ah, bravo.
Trevor Stephen, Jérôme Bretagne, magnifique.
Bravo. Le texto
en 91-92.
Le texto.
Quel était en Ligue 1?
5-1.
Écoutez-moi, bande de truffes. Marseille était champion de France. Nous en rappelons tous dans les conditions que l'on connaît. Mais c'est-à-dire devant Monaco, c'est ça que je voulais dire. Mais en Ligue 1, quelle était la ville la plus proche de Marseille en Ligue 1 à cette époque?
Toulon. Non,
Toulon.
Ouais, c'est moi.
Toulon, magnifique Jérôme Bretagne.
C'est Jérôme encore. Ouais.
L'Olympique de Marseille cette année-là.
6-1. Il reste 5 minutes. Bob, réveille-toi.
Cette année-là, malheureusement, n'a pas pu aller en finale dans les conditions que l'on connaît. Mais a été éliminé par une équipe en 8e qui visiblement a mal compris les coups de fil. Quelle était cette équipe? L'équipe qui élimine l'Olympique de Marseille en 8e de finale. Mais qui n'avait pas compris. Vous n'avez pas compris le principe de la Ligue des Champions. De la Ligue des Champions, de la Coupe des Clubs Champions. Marseille est éliminé en 8e de finale par une équipe. Une fois, deux fois, le Sparta Prague.
Je ne l'ai pas celui-là.
Bah oui, le Sparta Prague.
Magnifique Sparta Prague. Alors en plus,
pourtant, je devrais
terrible,
me souvenir des défaites.
Au
de
match aller, Marseille mène 3-0 dans un fauteuil. Il prend deux buts à la con en fin de match qui leur coûtera la qualification.
Attends,
il y a
3-0 à l'aller à Marseille.
Oui,
ça menait 3-0.
Ils prennent deux buts en 10 minutes.
Ouais, je me demande même si c'est pas.
Et après, vous perdez 2-1 au retour. Attention, en 92.
3-2 à l'aller.
Ouais. En 92, qui gagne la Coupe des Coupes?
Sampdoria Gent.
Pas du tout. Et je peux vous dire qu'on s'en rappelle en France. Hein. Parce que malheureusement, c'est contre un club français.
Ah, Werder de Brême.
Werder de Brême, bien sûr, contre l'AS Monaco.
Bien sûr, finale contre Monaco.
7-1, Bob, tu es nul.
Bob, tu es nul. Bob, tu es nul.
Il reste 3 minutes.
Il y a 4 points pour cette question.
Le lucky loser, il a pris voilà. Cher.
Il est plus loser.
Il est venu à l'antenne pour se faire humilier, il n'avait rien demandé à personne.
Mais il n'était pas né.
Il continue, moi j'aime bien ce quiz. Il est bien.
Il n'était pas né.
Et alors, moi je sais que Raymond Coppa et Juste Fontaine, ils ont joué la Coupe du Monde 58.
C'est la culture, ça, monsieur.
Merci. Attention, tu peux te refaire. À l'Euro 92, il y avait 4 meilleurs buteurs avec 3 buts. Hein. Gros euro. Attention, il y a eu du spectacle. Donnez-les-moi. Tout, chaque nom vaut un point.
Van Basten. Gullit.
Non, non, dans la même équipe que Van Basten, il y en a un.
Bob a dit.
Gullit, non
Larsen. Non. Il passe, non Danon.
Le Danois
Larsen.
Ouais, un point.
Un.
Yes.
Un point.
Elkjær Larsen.
Non, c'est Henrik Larsen. Il a de la chance, c'est même pas Elkjær. Bah, c'est bon, Henrik Larsen.
C'est bon, il a dit Larsen.
Bergkamp.
Il y a un Suédois. Bergkamp. Il y a un Allemand. Moi, j'adorais ce joueur.
Klinsmann. Pas...
Non, très très dur. Il y a un Suédois qui avait une tête de poupon. Avec des grosses joues.
Et il n'y a pas un Brolin, Allemand Brolin. Aussi
Ah oui, Brolin. Si,
Brolin. Brolin.
Ouais.
Et il y a un Allemand.
Brolin, 7-3.
Ouais, et il y a un Allemand bon. qui a le doux prénom de Karl-Heinz.
Ah, si, non.
Riddle.
Non.
Riddle.
Karl-Heinz Riddle. Oui. Magnifique. Très belle culture
8-3.
De Jérôme Brantel.
Karl-Heinz Riddle.
En 92.
8-3, il a fait un Monaco la Corogne, dis donc.
Ouais, Monaco la Corogne.
Reste 2 minutes.
En 92, le 25 mars, quoi qui s'est passé? Quoi qui s'est passé le 25 mars 92? Le 25 mars 92. Alors, ça, il y a eu des conséquences indirectement. En 92, il y a une équipe qui n'a pas pu jouer l'Euro, qui a été remplacée par le Danemark. Est-ce que vous vous rappelez laquelle c'était?
Bah, les gars, quand même.
Il y a une équipe qui n'a pas joué l'Euro en 92.
C'est la question ou je peux le dire laquelle c'est?
Mais non, tu peux le dire, vas-y, allez.
La Yougoslavie.
Alors, le 25 mars 92, qu'est-ce qu'il y a eu? Le 25 mars 92, je vais vous le dire. C'était le dernier match de l'histoire de la Yougoslavie.
Quoi.
Non,
ah ouais, après, ça s'est séparé.
Dernier match de foot de l'équipe de Yougoslavie. Alors, attention! Quoi? Alors,
c'est
on
pas,
va
c'est pas du très haut niveau ce soir, quand même, les gars. Je veux pas dire, mais 8e de finale.
Les questions aussi, elles ne sont pas de très haut niveau.
Ça mérite pas le central, ce match.
Qui connaît la crise? 92. Alors, on va faire plus simple pour notre ami Arthur Bob. Où se déroulait l'Euro?
En Suède.
Suède. Absolument. En Suède. En même temps. Attention, on va faire un petit Kikawajisi de joueurs de cette époque. Kikawajisi, Brescia, Vicenza, Bologne, Fiorentina,
Signori,
Juventus, Milan AC,
Baggio,
Robert et Inter. Il a tout fait, le mec. Hein. Lui, c'est le traître absolu.
9-3.
Avec Ronaldo, c'est les deux meilleurs.
30 secondes.
Attention, Kikawajisi, Niort, Munich 1860, FC Zurich, Torino,
Abedi
Pelé. Oui, magnifique.
Ah ouais, Niort.
Il remonte tôt.
9-4.
Il lui faut la Porsche de Jérôme Bretagne qui est au garage pour remonter.
J'ai un Kikawajisi à 2 points. Attention, il vaut 2 points. Kikawajisi. Parce que c'est parce que le nom est magnifique. Vas-y. AS Monaco. Caen. Paris Saint-Germain.
Rotten.
Non. Lille. Cannes. Hein? FC Léon. Kensington. Barnet. Leyton. Saint-Alban City.
Hein?
Monaco. Caen. PSG. Lille. Cannes. Ça, c'est pour vous, c'est ça qui doit
Monaco,
jouer.
Caen. PSG. Lille. Cannes.
Lille. Cannes. Si, j'ai envie de vous dire, il a été longtemps le symbole du Paris Saint-Germain sur les affiches.
Simba, tu seras le fils de ton père, le roi lion.
Amara Simba.
C'était Amara Simba.
Je l'ai dit.
Jérôme, ouais, oui, c'est bon. Ça. Score final 10-4.
On est sur une branlée.
Rotten qualifié. Facile.
Énorme branlée.
Bob, merci d'être venu.
Merci, c'était bien. Bah, écoute, il découvre le haut niveau.
Il retournera à l'antenne dans d'ici 5-6 ans, Bob.
On est bien le score. 11-4, c'est ça?
10-4.
Non, c'était 2 points la dernière.
Ah, c'est vrai, t'as raison.
11-4.
Je vous donne les affiches.
Donc, je vais tweeter ça.
Quel salaud.
Je vais tweeter quand même. Parce que...
Les affiches des cartes finales, ce sera à partir de lundi prochain. Bribois Diaz, Périnel Macardi, Rotten Le Payeur et Jamin Riolo.
Attendez, excusez-moi, je peux vous poser une question ?
Oui.
Est-ce que les quarts de finale auront lieu à huis clos ?
Ah bah non, il y a des millions de gens qui peuvent écouter.
Ah ouais, ah ouais, oui. Donc il y a un risque. On prend le risque. On bon, attends, puis allez, on prend le risque, on s'en fout.
Merci Eric, merci ciao, Daniel, merci Jérôme, merci Julien.
Bisous.
Merci Bob. L'after revient demain, hein. Demain soir, 22h, avec Nicolas Jamin et Daniel Riolo, bien sûr. À demain soir.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot.